Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Depuis lundi, nous cheminons dans les sanctuaires avec Mgr Perrier, notre ancien évêque, qui nous fait découvrir avec simplicité des lieux importants à connaître pour bien comprendre le message de Lourdes. Hier, nous étions devant la Vierge couronnée, en plein milieu de l'esplanade. Et maintenant, dirigeons-nous vers la grotte. Mais, nous dit Mgr Perrier, en ville, les panneaux indiquent la grotte et non les sanctuaires. Les deux voies d'accès principales portent son nom, rue de la Grotte, boulevard de la Grotte. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des grottes de Lourdes. Tout part de la grotte et revient à la grotte. Pourquoi cette polarisation sur la grotte et la grotte seule? Parce que le lieu est immuable et facilement identifiable. Parce que toutes les apparitions se sont produites au même endroit. Parce que c'est dans la grotte que la source a été découverte et continue de couler. Ces trois caractéristiques ne se retrouvent pas dans les autres sanctuaires mariales, même très célèbres comme Fatima. La grotte a-t-elle changé depuis 1858? Il faut répondre à la fois oui et non, répond Mgr Perrier. Oui pour l'environnement, non pour le cœur même de la grotte. Le lieu avait d'abord été nettoyé de toutes les ordures que le gave y déposait régulièrement. Si bien que la grotte était appelée aussi la tute au cochon, le sol a été aplani et dallé, le canal de sa vie a été enterré, son cours est indiqué, de même que l'emplacement où pouvait se trouver Bernadette le 11 février. La rive du gave a été déplacée à deux reprises, de manière à dégager une vaste plateforme pour les pèlerins. En effet, dès le 21 mai 1866, deux jours après l'inauguration de la crypte, l'Eucharistie est célébrée à la grotte, au moins occasionnellement. Ces transformations furent très rapides, si bien que Bernadette ne reconnaissait plus les lieux. Mais la grotte elle-même n'a guère changé. Simplement, à la base, elle a été élargie d'un mètre de chaque côté pour le passage des pèlerins. Sinon, la voûte, et spécialement la niche, qui servait le plus souvent d'encadrement à l'apparition, ont été respectées. Il fallut simplement effacer la noirceur accumulée par les cierges qui n'ont cessé de brûler depuis 1858. Il fallut aussi s'assurer qu'avec le temps, le rocher tenait bon, malgré les travaux nécessités par la construction de la chapelle et la masse de la basilique elle-même. Les travaux furent effectués en 2011. Indissociable de la grotte, la statue. Même s'il existe d'autres statues de la Vierge dans les sanctuaires, celle de la grotte est la seule à être appelée Notre-Dame de Lourdes. Dès le 4 avril 1858, le commissaire Jacomet, dans son calepin, note qu'une Vierge en plâtre a été déposée sur un tapis fleuri en dessous de la niche. Il y en eut sans doute d'autres. Après le mandement de 1862, une œuvre de plus grande classe paraissait s'imposer. Paraissait, car la dame avait demandé une procession et une chapelle. Il n'était pas question de statue. La proposition vint de deux demoiselles lyonnaises, mesdemoiselles de la cour. Elles étaient prêtes à financer une statue qui représenterait d'une manière aussi exacte que possible l'habillement et la pose de l'apparition. Le sculpteur fut évidemment un Lyonnais, Joseph Fabiche. Il avait réalisé en 1851, pour la basilique Notre-Dame de Fourvière, la statue qui surmonte la flèche. Plus tard, il dirigera l'école des Beaux-Arts de Lyon. Ce n'était donc pas un artiste de second plan. De plus, c'était un homme profondément religieux. Fabiche vint à Lourdes en septembre 1863. Il est vivement impressionné par Bernadette. Celle-ci répond clairement aux questions qu'il lui pose pour être fidèle à la commande rigoureuse qui lui a été passée. Sur place, il réalise une maquette qu'il montre à Bernadette. Rentré à Lyon, il sculpte une maquette aux deux tiers de la taille définitive. Il envoie une photographie. l'abbé Peyramale lui transmet les critiques de Bernadette, mais d'une manière si vague que l'œuvre définitive ne différera guère de la maquette. Dans sa réponse, il préparait cependant à ne pas espérer une pleine approbation de la part de Bernadette. « Je trouve votre modèle parfait. » Pour Bernadette, c'est autre chose. Le 31 mars 1864, Bernadette découvre la statue. Le dialogue est connu. « Est-ce bien cela ?» demande l'abbé Peyramale. « C'est bien cela. » Puis, après un silence, et avec un accent de regret, presque de dépit, « Non, ce n'est pas cela. » Fabiche, qui avait voulu trop bien faire, en fut navré toute sa vie. Plus tard, Bernadette dira que de toute façon, aucune représentation ne pourra être fidèle à la réalité, ce qui ne l'empêchera pas de se recueillir devant des statues. Pour elle, Fabiche n'avait respecté ni la jeunesse, ni la petite taille de l'apparition. La Vierge n'a pas levé la tête, mais seulement les yeux. Bernadette avait dit « Ses mains étaient jointes, paume contre paume. » Fabiche n'a pas bien écouté. Pour autant, Bernadette n'est pas rancunière. Elle aurait bien voulu assister à la bénédiction de la statue sur place le 4 avril, mais elle était souffrante. Le cardinal de Cabrières, évêque de Montpellier, fit inscrire en 1916 la parole de la Vierge telle que Bernadette l'avait entendue. Que soy era Immaculata Conception. Grâce à la lecture de ce livre, j'ai appris comment était née la procession au flambeau. Le 28 août 1872, au soir, des pèlerins étaient rassemblés à la grotte pour prier. Tous tenaient un cierge. « Il faut que ces cierges marchent et chantent », lança le prédicateur, un capucin, le père Marie-Antoine. Il avait testé l'idée à Rocamadour en 1863. Et c'est ainsi qu'est née la procession mariale du soir, que tous continuent d'appeler la procession au flambeau. Avançons-nous vers les piscines. Écoutons ce qu'en dit Mgr Perrier. Les piscines permettent l'expérience la plus originale de Lourdes. La Vierge Marie n'a pas parlé de se baigner. Il n'en est d'ailleurs pas question au tout début. Dans son mandement de 1862, Mgr Laurence déclare que plusieurs guérisons ont été opérées après usage de cette eau, soit en boisson, soit en lotion. Bernadette ne s'est jamais baignée dans l'eau de Massabielle. Il est difficile de préciser quand et comment s'est mis en place le quasi-rituel du bain dans les piscines. Deux influences totalement étrangères l'une à l'autre peuvent avoir joué. L'exemple des stations thermales nombreuses dans les Pyrénées et l'évocation du baptême qui, selon le sens primitif du mot, est une plongée. Par le baptême, l'enfant ou l'adulte devient un homme nouveau. Par le bain dans les piscines, le malade et les pécheurs peuvent demander leur régénération. Un vitrail de la basilique supérieure rappelle aussi que dans les évangiles, deux guérisons sont liées à une piscine de Jérusalem, Bethesda et Siloé. Les piscines ne sont à cet emplacement que depuis 1955. Elles sont au nombre de 15. Le cours du Gave a été légèrement modifié pour élargir l'espace devant les piscines. Il reste malgré tout fort étroit, d'autant plus que la circulation doit rester possible entre les piscines et le Gave. Les piscines ont beaucoup souffert de la crue de 2013, et déjà de celle moins forte qui l'avait précédée en 2012. Dans le cadre de l'opération Espace-Grotte, un large auvent protège les personnes qui attendent d'accéder à l'intérieur. Une statue représente la Vierge faisant le signe de la croix. C'est un ex-voto que Myriam Franck, convertie du judaïsme, promit à Notre-Dame de Lourdes si son père, rabbin à Paris, se convertissait lui-même. Ce fut le cas en 1877. Pour l'accueil des malades, il fallait des lieux appropriés. L'accueil Notre-Dame et l'accueil Marie-Saint-Fray ont été les grandes réalisations des années 1990. L'ancien asile, devenu accueil Notre-Dame en 1969, s'avérait trop petit et ne correspondait plus à ce qu'on était en droit d'attendre aujourd'hui pour recevoir des personnes malades ou handicapées. Le concours d'architecture fut gagné par un cabinet de Pau. La première pierre fut posée le 11 février 1996 et malgré un incendie au mois de janvier 1997, le premier malade fut accueilli le 7 avril 1997. La prouesse technique était aussi remarquable qu'avait été celle de la basilique Saint-Pédis en 1958. Les architectes ont entaillé la roche au nord, si bien que la route de Pau passe au niveau du dernier étage de l'accueil. Ainsi, toute la circulation s'effectue désormais en dehors des sanctuaires. Au niveau de la route, un parking permet à plusieurs bus de stationner simultanément. 900 malades peuvent être accueillis. Ils occupent des chambres à 1, 2 ou le plus souvent 6 lits. Toutes les chambres bien équipées au point de vue sanitaire donnent du côté de la grotte. Les 4 niveaux d'hébergement sont divisés en 2, le bâtiment étant symétrique autour d'un ascenseur vitré. De sorte que chacune des 8 unités n'accueille pas beaucoup plus d'une centaine de personnes et comporte sa salle de restaurant. Au revoir, chers auditeurs, et demain, nous nous rendrons dans les églises et basiliques des sanctuaires.